Ne pensez-vous pas justement que les choses auxquelles nous assistons et qui finalement sont peut-être des signes, c'est-à-dire aussi bien le combat des intermittents, puisque l'intermittence est le prototype même de l'emploi du futur, mais aussi, ça paraît anecdotique, mais ça ne l'est sans doute pas, l'arrêt d'une émission comme l'émission de Mermet, enfin toutes ces signes de toutes les portes qui, les unes après les autres, se ferment, peut-être témoigne de la fin de quelque chose, en tout cas d'une angoisse de la part de ceux qui nous dirigent, d'une urgence à essayer de tout contrôler, tout bloquer, etc. Puisqu'on voit bien, et vous l'avez décrit, que le système électoral actuel en France, il est soit paralysé, puisque il y a ce parti unique, ou en tout cas ces deux partis de droite que sont d'un côté l'UMP et le Front National, qui est un parti, disons, à tendance néo-fasciste, puis de l'autre côté, ce que Lordon appelle la droite complexée, qui est ce parti néolibéral, qui dans le temps s'appelait Parti Socialiste, mais qui n'a absolument plus rien de socialiste, même s'il faut distinguer les militants des dirigeants. Donc de ce côté-là, c'est paralysé, et de l'autre côté, c'est totalement disqualifié, puisque l'on voit le niveau extraordinaire d'abstention, plus personne n'y croit, ça paraît totalement dérisoire. Et donc c'est vrai, c'est juste pour abonder sur ce que vous dites et ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, la seule réponse peut être une réponse qui déborde et les partis politiques et les organisations syndicales et peut-être même les associations, et qui est une reprise de l'appareil d'État et du pouvoir simplement par une population qui s'insurge. Alors comment s'insurge-t-elle et dans quel sens, nous l'ignorons, mais histoire de relancer le débat, je rappelle cette phrase définitive de l'évangile de Matthieu: le royaume de Dieu se prend par la violence et ce sont les violents qui l'emportent. Donc c'est toujours bon de citer l'évangile pour appeler à la révolution.
Moi j'aimerais juste déjà juxtaposer deux citations, une de Friedrich Hayek, économiste libéral, qui disait « je préfère somme toute une dictature à une démocratie qui ne serait pas libérale ». Ça fixe un peu, sachant que Hayek a commencé à diffuser ses thèses avant-guerre, ça fixe un peu la chose. Une deuxième citation, qui est celle du sémillant David Rockefeller, qui a dit « quelque chose doit pouvoir remplacer les gouvernements et il me semble que le privé serait l'entité la plus adaptée ». C'est pas du littéral, mais c'est à peu près ce qu'il a voulu dire. Et une question concernant la perte d'influence des syndicats. Est-ce que on ne peut pas considérer quand même qu'il y a eu effectivement une volonté politique de détruire les syndicats, c'est évident, mais est-ce que encore plus le phénomène de concurrence internationale, de dévaluation interne dans chaque pays qui s'est produit avec la pression sur les salaires, la pression sur les emplois, la chute des emplois, la montée du chômage, est-ce que ça n'a pas été quand même le facteur, est-ce que ce n'est pas le facteur majeur de la perte d'influence des syndicats et de la faiblesse de leur audience et de leur nombre d'adhérents?
Oui, encore, enfin, il va de soi que quand vous mettez en place sciemment et volontairement un système qui est tel que les jeunes, à l'issue d'une formation, connaissent 2 ans de chômage, 5 ans de précarité, tout ça ce sont des moyennes, il est évident que ça a un effet destructeur sur les syndicats qui est absolument terrible, puisque bien entendu, n'appartenant pas à une entreprise avant au mieux l'âge de 30 ans, ils passent toutes leurs premières années de travailleurs dans un système totalement déstabilisé dans lequel l'action syndicale est rendue rigoureusement impossible. Je trouve que c'est une bonne remarque. Par ailleurs, en France, je ne me résiste quand même pas à la tristesse de dire que une certaine forme de trahison syndicale de la part de certains des syndicats a aussi joué un rôle particulièrement néfaste.
Est-ce que vous y connaissez pas un peu trop Roosevelt là, parce que il paraîtrait qu'il a aussi eu aussi il fallait tout simplement arrêter cette folie du crédit, c'est tout, les gens s'endettaient pour acheter des actifs en bourse, c'est tout, c'est ça qu'il fallait arrêter, c'était une folie furieuse. Après il y a eu l'arrêté de la prohibition qui coûtait un pognon fou, l'interdiction de l'alcool, ça tuait énormément de gens parce que c'était frelaté comme on fait aujourd'hui avec la drogue, c'est complètement idiot ce qu'on fait avec la drogue. Si on est dans un état de prohibition, hein, c'est tout, c'était. Puis en plus, Roosevelt, je crois, j'ai entendu sur la 5, ça, mais attention, je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il paraît qu'il a raflé tout l'or des particuliers? Alors, qui accepterait que votre or soit raflé ici? Je ne vois pas beaucoup de gens. Hein. Bon. Et après, il ne faut pas oublier que Roosevelt a travaillé avec les nazis. C'est les USA qui ont armé l'Allemagne, ne l'oubliez pas, hein, avec l'argent des juifs qui est venu aux États-Unis. C'est l'argent des juifs qu'ils avaient, les Américains. Ne l'oubliez pas surtout. Alors, moi, je pense que vous iconisez pas un peu trop Roosevelt. Puis après, vous nous parlez de matraquage. Oui, le matraquage, c'est bien beau, le matraquage des médias. Mais est-ce qu'on serait des éponges comme cet esclave que vous dites là? Est-ce qu'on serait des gens inconscients, obscurcis comme ça? Est-ce qu'on croirait tout ce qu'on nous dit? Non, moi, je pense pas quand même. C'est bien les gens qui l'ont voulu. Hein, c'est bien quand vous avez Ryanair, cette entreprise là qui fait des voyages à je sais pas quel prix dérisoire. Tout le monde est content, ils viennent avec leur truc. C'est les gens aussi. Est-ce que vous pensez pas que les gens sont aussi coupables? Parce que c'est toujours, c'est pas moi, c'est l'autre. C'est l'Europe, c'est l'État, ce monstre froid, c'est pas moi, c'est lui, c'est pas moi, c'est elle. Ce truc de c'est pas moi, c'est un peu lamentable aussi. Moi, je trouve qu'on est coupable nous aussi. Parce que regardez toutes ces entreprises. Avant, vous avez les petits commerces. Moi, j'ai 63 ans, j'ai connu les petits commerces. Il fallait aller à l'épicier, il fallait aller au boulanger. Bon, vous avez connu. Et puis après, on a dit, oh là là, ces petits commerces, ça nous fait faire trop de courses, il faut des grands magasins. Voilà, on a eu des grandes surfaces, tout le monde était content. Après, on a eu le beurre. Après, ils ont dit, oh là là, ces grandes surfaces, mais c'est trop cher, c'est aussi cher que les petits magasins, il faut les faire venir de Chine. Oh là là, alors il faut faire venir des produits beaucoup moins chers. On a eu l'argent du beurre. Après, on a pris des charters, on est allé en Thaïlande, on est allé baiser la fermière. Bon, ben, est-ce que ça fait un peu trop, ça? Qu'est-ce qu'on veut maintenant? Est-ce qu'on n'est pas coupable, nous non plus, hein, je veux dire, vous dites, c'est toujours l'autre, c'est les médias, c'est pas moi, c'est l'autre. Bon, je regrette. Et puis après, vous dites... Oui, bien, je pose la question. Roosevelt, est-ce que vous n'exagérez pas sur Roosevelt? Deuxièmement, est-ce que nous ne sommes pas nous aussi coupables et pas toujours mettre le compte sur les médias? C'est pas la pensée clic-clic, non, c'est la pensée clic-clac, la pensée canapé, c'est-à-dire la pensée du confort, voilà. Est-ce que...
Bon, juste un mot... Je ne fais pas de Roosevelt une icône, j'insiste simplement à relire un peu sa politique. Et elle est extrêmement, il y a des choses extrêmement intéressantes, sachant que la situation était très différente. Mais alors ça m'amène au passage à faire une petite remarque sur la crise dite crise de 29. Si vous étudiez les choses en détail, vous verrez que, alors qu'elle est là aussi présentée selon un certain nombre d'idées reçues comme une crise boursière, le crack, le jeudi noir, etc., tous les indicateurs économiques basculent en mai et juin 29, c'est-à-dire que la production industrielle, la construction d'immeubles, enfin de logements, le taux d'emprunt, la consommation, etc., tous les indicateurs basculent avant l'été 29, et donc il est intéressant d'apprendre, parce qu'on a appris l'inverse, que c'est pas une crise, c'est pas une crise boursière, peut-être une crise financière, mais c'est certainement pas une crise boursière. L'effondrement de la bourse est la conséquence d'une crise économique grave de sous-consommation et de surproduction qui démarre dès 1929 et dès le début de l'année. Et d'ailleurs, ceci est signalé par quelqu'un qui a dû comprendre les choses, parce que justement, c'était pas un économiste. C'est l'ambassadeur de France à Washington, un certain Paul Claudel, qui envoie des rapports pour dire dès le début de l'année que la situation économique des États-Unis est catastrophique. Ça c'est pour Roosevelt. Concernant la responsabilité individuelle et la responsabilité collective, bon, on connaît le problème. La seule question, c'est quand vous ne proposez aux gens de manière absolument répétitive qu'un seul discours, qu'une seule solution, qu'une seule obligation, quand on vous répète jour et nuit, soir et matin, que on est trop endetté, par exemple, absolument aucun sens, on n'est pas plus endetté qu'à d'autres périodes de l'histoire du XXe siècle, qu'il est absolument obligatoire que le budget soit équilibré. Une aberration pure et simple. Il est absolument obligatoire que le budget d'un pays soit pas équilibré, évidemment. Puisque, bien entendu, qu'est-ce que c'est qu'un pays ? C'est un ensemble collectif qui est investi pour le futur. Donc il est absolument nécessaire que le budget soit déséquilibré. Ou alors c'est une catastrophe pure et simple. Un budget en équilibre, c'est un désastre. C'est une folie furieuse. Je ne sais pas sur quelle voie de chemin de fer, sur quel pont, avec quel barrage, etc., on vivrait aujourd'hui s'il n'y avait pas eu d'endettement auparavant. Évidemment que l'investissement... Imaginez même, d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est que les économistes brillants, les autres là-bas, qui vous expliquent que l'État ne doit pas être endetté, trouvent tout à fait normal que les entreprises, qui par ailleurs les emploient, en leur fournissant des jetons de présence et autres choses de ce genre, elles s'endettent, évidemment. Il va de soi que les plus grandes multinationales mondiales sont très endettées, que c'est tout à fait normal, elles investissent. Imaginez que Exxon n'ait pas de dette. Alors évidemment, comment ils prospecteraient le pétrole, comment ils exploiteraient les nouveaux gisements. Enfin bon, alors on vous répète des conneries, excusez-moi. On vous répète des conneries jour et nuit, et après on me dit les gens sont responsables d'écouter ces conneries. Ben non, pas complètement. Pas complètement, ils le sont un petit peu, évidemment. On est toujours un peu responsable de faire ce qu'on nous dit de faire.
Ah, c'est Madame Merkel, vous entendez. Si Madame Merkel, vous entendez, vous savez que l'Allemagne vient de voter pour la première fois dans son histoire un budget équilibré. Donc bon, si vous entendez là. Non, mais sous la responsabilité personnelle, moi je vis détachement une chose, je suis italien, vous allez en Italie en train, mais il n'y a plus de train, il n'y a plus que les avions. Donc j'y vais en voiture, j'y vais en avion. Les trains qui vont en Italie, même s'ils veulent faire un tunnel de plus, avant il y en avait 8 par jour, aujourd'hui il y en a 2. Voilà. Parfois le choix individuel, il est obligé, quoi. Je voulais parler en particulier quelques remarques sur les syndicats, quoi. Il me semble que d'un côté, effectivement, il y a eu tout un politique, mais que, bon, quand je suis arrivé en France, j'ai été assez choqué du poids relatif, effectivement, des syndicats français, comparé aux syndicats italiens des années 70. Mais au même moment, ces simulacres des syndicats, ils jouent un rôle important, parce que, bon, je siège dans des instances partenariales, comme on dit, hein. Moi, je ne suis pas du tout un syndicaliste, mais bon, j'y suis par d'autres raisons. Et la chose qui m'impressionne toujours, c'est la présence de ces syndicats qui ne représentent rien, mais qui, par contre, ils parlent dans ces instances en disant bon, « nous, on représente ». C'est assez rigolo, parce qu'en général, c'est un peu comme quand on voit un socialiste, un UMP parler à la télé, ils se font beaucoup de gentillesse et très peu de méchanceté, quoi. Je veux dire par là, c'est que même si c'est vrai que les syndicats ne pèsent rien, mais l'État continue à lui donner quand même une importance fondamentale, lui fait signer des accords et tout ça, quoi. Donc la problématique des syndicats, il faut la traiter à deux niveaux. Il faut la traiter, effectivement, il faut relancer la syndicalisation. Bon, la France est quand même le pays européen avec le taux de syndicalisation le plus bas, autour de 6%, mais qu'au même moment, il faut aussi arrêter de donner effectivement une responsabilité aux syndicats qui ne représentent plus rien, quoi. Voilà, il faudrait avoir le courage de dire que les syndicats n'ont pas à être présents, par exemple, dans certaines instances, vu qu'ils ne représentent rien, quoi. Voilà. Après, deux petites remarques sur la violence et sur les prisons. En Italie, à la fin des années 70, il y avait 25 000 détenus, dont 6 000 vraiment politiques, ce qui étaient donc des membres de l'extrême gauche. 5 ans après, quand il n'y a plus les détenus politiques, ou en tout cas ils commencent à diminuer, les détenus sont 45 000. Voilà. C'est-à-dire que le système qui était libéré, le système capitaliste qui a été libéré effectivement d'un certain niveau de lutte de classe, devient vraiment beaucoup plus répressif, quoi. Voilà.
Je suis aussi syndicaliste, CGT. Et je veux quand même dire que être syndiqué aujourd'hui, même quand on est fonctionnaire, c'est très difficile. Et militer, dans la fonction publique notamment, ça casse les carrières. Pour ceux qui, et notamment pour les ingénieurs, cadres techniciens. Je voulais rajouter un point sur l'analyse de l'affaiblissement syndical. Je pense que jusque dans les années 60, le modèle de l'entreprise, c'était quand même l'entreprise intégrée. C'était la grosse entreprise, où toute l'activité, tous les métiers se déroulaient dans un même espace-temps humain. L'entreprise, c'est un espace-temps humain créateur de richesses. Et ça permettait de construire la revendication. Car le produit fait, il était fait sur le même lieu. Et le capitalisme n'est pas bête. Après s'être pris la raclée de 68, parce que ça, on pense qu'il est toujours bête, mais il lit, il regarde comment ça se passe. Et il tient compte de ses défaites. Il a décidé de passer à un autre système pour casser la lutte des classes. Il est passé à l'entreprise éclatée, qui a produit aussi le salarié isolé, d'où précarité et tout ce que vous avez développé. Et je pense que ça explique beaucoup de l'affaiblissement syndical, car le syndicat ne peut exister dans une entreprise que s'il peut développer un rapport de force. Si l'entreprise est éclatée, qu'on ne voit pas sa contribution à la production de richesses, qu'on n'a pas ce rapport de force au sein de l'entreprise, c'est extrêmement difficile. D'où d'ailleurs, je le dis au passage, la nouvelle réflexion, en tout cas de ce que je connais de la CGT, de ce qu'on appelle la création de syndicats de site, c'est-à-dire de sortir de l'entreprise pour essayer de regrouper des salariés de différentes entreprises, mais qui appartiennent à un même secteur d'activité ou à un même bassin d'emploi, car quelque part la revendication est commune, quelle que soit la dénomination de l'entreprise. Et je pense que c'est un élément important, mais ne nous le cachons pas. Je veux dire, aujourd'hui, il y a à peu près 600 000 adhérents à la CGT, il y en avait 6 millions en 45.
Est-ce que tu as une question, Fabrice ?
Non, c'était juste...
une intervention, d'accord.
Vous avez dit tout à l'heure que la seule solution pour s'en sortir, c'était de quitter l'Union européenne et de quitter l'euro. Bon, personnellement, je partage tout à fait ce point de vue. Mais la question qui me vient, c'est avec qui ? Parce que si vous réfléchissez bien aux institutions que nous avons dans le pays, l'UMP, je n'en parle pas, le PS, je n'en parle pas, j'élimine le Front National parce qu'on ne veut pas travailler avec lui, d'autant plus que je ne pense pas que malgré ce qu'il dit, il ait très envie de se sortir de l'euro et de l'Union européenne. Le parti de gauche, le Front de gauche, ne sont absolument pas pour quitter l'Union européenne, attaque non plus. S'il reste Jacques Sapir, Jacques Nikonoff, vous et moi, ça fait quand même pas beaucoup. Hein,
c'est un début. Non, non, mais j'ai juste précisé que pour que l'on sorte de ce marasme politique qui se traduit aujourd'hui par 40% d'abstention, dont on peut penser qu'une grande partie de ces abstentionnistes, alors c'est toujours difficile de parler en leur nom, mais enfin, ils sont par ailleurs étudiés de façon relativement sérieuse par quelques sociologues et politologues. Il est évident qu'on peut les remobiliser, mais il est aussi tout aussi évident que c'est très difficile. Donc je disais simplement que je fournissais deux propositions. Dans quel cadre militant ou institutionnel, quel parti, j'en sais rien. Moi, j'inciterais simplement à ce qu'il se crée un front populaire avec trois revendications centrales, et puis voilà, et pas 50, et trois revendications centrales dont découlerait tout le reste, quoi. Voilà.